du cosmos, Captain Kirk.
Effectivement, Bernard, c'est...
Comment ça va, mon cher Christian?
Ben, ça va très bien.
Captain Kirk était évidemment joué par l'acteur William Shatner.
Oui, un Montréalais, hein, d'origine montréalaise. Et William Shatner, donc, depuis quelques semaines, il y avait un bruit qui courait que le William Shatner, qui a incarné dans la série originale Patrouille du Cosmos, Star Trek, le Capitaine Kirk, un rôle d'ailleurs qui lui a collé à la peau toute sa vie, ben, le fameux William Shatner avait laissé sous-entendre il y a quelques semaines dans un Comic-Con aux États-Unis, en Californie. Il avait dit, qui sait, peut-être que bientôt je m'envolerai pour un court instant dans l'espace. Et là, ça avait déclenché les rumeurs, on le sait, depuis l'arrivée de nouveaux joueurs civils dans le domaine de l'espace, parce qu'on sait jusqu'au début des années 2000, l'espace était l'hégémonie américaine était détenue par la NASA. Et là, voilà qu'arrivent des joueurs civils. On pense par exemple à Virgin, on pense à SpaceX, on pense à Blue Origin de Jeff Bezos. Oui. Donc, lorsque Shatner avait annoncé qu'il allait peut-être s'envoler dans l'espace, la machine à rumeurs s'est mise en marche et on s'est dit, est-ce qu'il va voler avec SpaceX? Est-ce qu'il va voler avec Jeff Bezos? Est-ce qu'il va voler avec Virgin. Et voilà que c'est confirmé il y a quelques jours. William Shatner et Jeff Bezos ont annoncé que William Shatner, qui est aujourd'hui âgé de 90 ans, allait s'envoler le 12 octobre prochain, c'est mardi prochain, allait s'envoler sur la nouvelle capsule, la New Shepard, créée par la compagnie Blue Origin, qui est la compagnie spatiale aéronautique de Jeff Bezos. Jeff Bezos, on le rappelle, c'est le fondateur de Amazon. Mm-hmm. C'est un milliardaire qui aujourd'hui a quitté son poste chez Amazon pour se consacrer essentiellement à la conquête de l'espace. Il veut faire partie de cette équipe qui mettra éventuellement des hommes sur Mars. Et lui et Elon Musk de SpaceX se livre un bras de fer pour être ceux qui auront les meilleurs contrats avec la NASA. C'est un marché de milliards de dollars. Mais avec l'avènement de ces nouveaux joueurs, il est permis de penser que des civils ou du tourisme spatial sera bientôt possible. Et donc, c'est la deuxième fois que le vaisseau New Shepard va prendre son envol en emportant des civils. Et il y aura à bord, donc mardi prochain, William Shatner, 90 ans, qui va... Oui, tu allais dire, Bernard?
Je trouve ça formidable.
Ah, c'est tout à fait formidable. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où la NASA détenait l'hégémonie de l'espace, l'astronaute le plus vieux qui avait volé était l'astronaute John Glenn, qui avait fait partie originellement du programme Mercury, qui avait été le premier américain à orbiter autour de la Terre en 1962. Et il avait repris du galon en 1998, alors qu'il avait 77 ans, et il avait volé à bord de la navette Discovery. C'était déjà un record à cette époque-là qu'un homme de 77 ans, qui était quand même en excellente santé, fasse un vol dans l'espace. Mais avec l'avènement de ces nouveaux joueurs, on se rappelle d'ailleurs que récemment, lors du premier vol de New Shepard, Jeff Bezos faisait partie de l'équipage, mais il y avait également une certaine Wally Funk qui avait 82 ans et qui a donc battu le record de John Glenn. C'est une femme qui avait marqué le domaine de l'aviation et à 82 ans, en excellente santé, elle s'est envolée et s'est retrouvée, comme ses compagnons, s'est retrouvée une quinzaine de minutes à plus de 100 km de la Terre dans l'espace. Donc, elle avait atteint le niveau de l'espace, cet état d'apesanteur et le spectacle était tout à fait époustouflant. Et donc là, mardi prochain, c'est William Shatner, le Capitaine Kirk. On se rappellera, hein, il y avait au début de la série, on parlait du vaisseau Enterprise, puis on disait sa mission de 5 ans, explorer des nouveaux mondes étranges, reculer des civilisations. Et voilà que après toutes ces années, quelques 50 ans pratiquement après la série Star Trek, William Shatner pourra dire « Je suis allé dans l'espace ».
Ah non, c'est génial, c'est génial. Bon, parlant de l'espace...
Oui.
Le nombre de planètes susceptibles de développer la vie serait beaucoup moins important qu'on le croyait.
Exact. On le sait depuis quelques années, je te dirais depuis la découverte d'exoplanètes au début des années 2000, on en est maintenant à quelque chose comme 5000 exoplanètes qui ont été identifiées. Donc des exoplanètes, je rappelle que ce sont des planètes qui orbitent autour de soleils autres que le nôtre. Donc on en a observé à peu près 5000 et de ce nombre, plusieurs dizaines étaient dans la zone de vie, c'est-à-dire qu'elles étaient assez proches de leur soleil sans être trop éloignées éloigner de leur soleil pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide, et de la vie organique telle qu'on la connaît a besoin essentiellement d'eau et d'autres éléments pour se développer. Donc, l'eau étant l'élément principal, on se disait, ben, si elle est dans la bonne zone pour avoir de l'eau à l'état liquide, elle pourrait développer la vie. Ouais. Les grands critères étaient d'abord cette position par rapport à son soleil. Il fallait que la planète orbite sur elle-même, sinon un côté aurait été trop exposé à la chaleur, de l'autre côté trop froid. Il aurait pu y avoir de la vie dans la zone crépusculaire de la planète, mais ça restait très hypothétique. Et puis ensuite, il fallait que ce soit une planète de type comme la Terre, une planète tellurique. C'était les grands critères sur lesquels on s'appuyait pour dire, voilà des planètes qui sont susceptibles de développer des formes de vie. Mais cette semaine, malheureusement, on a pris un gros recul par rapport à ça avec la publication dans le Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America, oui, d'un article écrit par plusieurs astrophysiciens qui ont analysé une vingtaine de météorites, notamment des météorites martiennes, des météorites qui viennent de la Lune, donc au moment où il y a eu des impacts, il y a eu des rejets qui ont été envoyés dans l'espace et ces météorites se sont retrouvés sur Terre. Et cette étude montre qu'il y a un autre élément qu'on doit considérer et que les astrophysiciens ne tenaient pas compte, c'est la dimension de la planète. Hein? Une planète comme Mars, qui est à peu près 60-70% le volume de la Terre, serait apparemment une planète trop petite pour conserver assez longtemps son atmosphère et garder des éléments qui sont volatiles. Donc, malheureusement, l'eau étant l'un de ces éléments très volatiles, elle se transforme rapidement en vapeur. Il est peu probable que des planètes qui soient d'une dimension inférieure à la Terre puissent abriter, soient suffisamment stables, l'atmosphère soit suffisamment stable assez longtemps pour permettre l'apparition de formes de vie. Donc, de tous les exoplanètes qu'on a observées, quelques 5000, il y a, comme je l'ai mentionné, quelques dizaines d'entre elles qui étaient dans la bonne zone pour avoir des formes de vie. Il faudra revoir l'ensemble de ces planètes-là, et les planètes qui sont beaucoup plus petites que la Terre devront malheureusement être éliminées de l'équation parce qu'il est peu probable qu'elle puisse abriter des formes de vie.
Oh.
C'est malheureux, hein? Il y avait tout l'enthousiasme, on multipliait avec des chiffres astronomiques le nombre de planètes, d'étoiles, etc. Et là, voilà, c'est un recul.
OK, mais il y aura des avancées à un autre moment donné que tu sauras nous rapporter, mon cher Christian Page.
Absolument,
toujours
Bernard.
Toujours un plaisir, Christian.
Merci.
À jeudi prochain.
À jeudi.
Demain, tout le monde. On lâche pas. Bye.